Germaine de Staël, Delphine. Partie 2, lettres 11 à 17 comprises. Lettre 11. Léonce à Monsieur Barton. Paris, ce 14 août. Je l'ai offensé, mortellement offensé, mon ami. Je le voulais, et néanmoins je m'en repens avec amertume. Mais aussi, comment se peut-il que le jour même où j'apprends par hasard de Madame de Vernon que Madame d'Albémare doit aller chez le peintre de Monsieur de Serbellane, le jour où je la vois emporter ce portrait avec elle, Madame de Vernon me propose de rencontrer chez elle Madame d'Albémare, de lui dire adieu lorsqu'elle part pour rejoindre Monsieur de Serbellane. Et de quel terme Madame de Vernon, inspirée sans doute par Madame d'Albémare, se sert-elle pour m'y engager? Elle me rappelle l'amitié, les liens de famille qui doivent me rapprocher de sa nièce. Non, je ne suis ni le parent ni l'ami de Delphine. Je la hais ou je l'adore, mais rien ne sera simple entre nous. Rien ne se passera selon les règles communes. Il est vrai, je ne devais pas me servir d'expression blessante en refusant de la voir. Tant de circonstances, cependant, s'étaient réunies pour m'irriter. Je fus, tout le jour, assez content de moi-même. Mais la nuit, mais le lendemain qui suivit, je ne pus me défendre du remords d'avoir outragé celle que j'ai si tendrement aimée. J'allai chez Madame de Vernon pour la conjurer de ne pas montrer ma réponse à Madame d'Albémare. Madame de Vernon était partie pour la campagne de Madame de Lébancé. Il n'y avait pas une heure, me dit-on, qu'elle était en route. J'eus l'espoir, en montant à cheval, de la rejoindre, et je partis à l'instant. J'arrive à Cernay sans rencontrer Madame de Vernon. Un de mes gens me précède, on ouvre la grille, j'entre, et j'aperçois d'abord la voiture de Madame d'Albémare qui était avancée devant la porte de l'intérieur de la maison. J'imaginais que Madame d'Albémare était au moment de partir, et je ne sais par quelle inconséquence du cœur, quoique je ne fusse pas venu dans l'intention de la voir, je ne supportais pas l'idée que cela me serait impossible. Sans projet ni réflexion, j'avance et je crie au cocher « Reculez !»« J'attends, madame, » me répondit-il. « Reculez !» lui dis-je, et je sautai en bas de mon cheval, avec une action si véhémente qu'il m'obéit de frayeur. Je fus honteux de ma folle colère, quand je me trouvai seul au milieu de la cour, examiné par tous les domestiques qui y étaient. Celui de Madame d'Albémare, se ressouvenant du temps où sa maîtresse avait du plaisir à me voir, me dit qu'elle était dans le jardin. J'y entrai par la porte de la cour, toujours dans le même égarement. J'étais dans une maison étrangère. Je n'y connaissais personne, mais j'allais où elle était comme un malheureux, entraîné par une force surnaturelle. Il était 9 heures du soir. Le ciel était parfaitement serein, et la beauté de la nuit aurait calmé tout autre cœur que le mien. Mais dans mon agitation, je ne pouvais éprouver aucune impression douce. Je la cherchais, et mes yeux repoussaient tout ce qui n'était pas elle. J'aperçus, d'une des hauteurs du jardin, à travers l'ombre des arbres, cette charmante figure que je ne puis méconnaître. Elle était appuyée sur un monument qu'elle semblait considérer avec attention. Une petite fille à ses pieds, habillée de noir, l'attirait par sa robe pour la rappeler à elle. Je m'approchai sans me montrer. Delphine levait ses beaux yeux vers le ciel, et je crus la voir, pâle et tremblante, telle que son image m'était apparue à l'église. Elle priait, car toute l'expression de son visage peignait l'enthousiasme de l'inspiration. Le vent venait de son côté. Il agitait les plis de sa robe avant d'arriver jusqu'à moi. En respirant cet air, je croyais m'enivrer d'elle. Il m'apportait un souffle divin. Je restai quelques instants dans cette situation. Depuis un mois, mon cœur oppressé n'avait pas cessé de me faire mal. Je le sentais alors battre avec moins de peine. J'y pouvais poser la main sans douleur. Je serais resté longtemps dans cet état si je n'avais pas vu Delphine sortir du bosquet pour lire, au rayon de la lune, une lettre qu'elle tenait entre ses mains. Il me vint dans l'esprit que c'était celle que j'avais écrite à Madame de Vernon et que les signes de douleur que je remarquais sur le visage de Delphine venaient peut-être de la peine que je lui avais causée. Je ne pus résister à cette idée. Je m'approchai précipitamment de Madame d'Albémare. Elle se retourna, tressaillit, et prête à tomber, elle s'appuya contre un arbre. Je reconnus ma lettre qu'elle regardait encore. J'allais m'en saisir pour la déchirer, lorsque Delphine, reprenant ses forces, s'avança vers moi, et tenant ma lettre dans l'une de ses mains, elle leva l'autre vers le ciel. Jamais je ne l'avais vue si ravissante. Je crus un moment que moi seule j'étais coupable. Il me semblait que j'entendais les anges qu'elle invoquait à son secours parler pour elle et m'accuser. Je tombai à genoux devant le ciel, devant elle, devant la beauté. Je ne sais ce que j'adorais, mais je n'étais plus à moi. « Parlez, m'écriai-je, parlez. Prosterné devant vous, je vous demande de vous justifier. » « Non, me dit-elle, en mettant sa main sur son cœur. Ma réponse est là. Celui qui put m'offenser n'a pas mérité de l'entendre. » Elle s'éloigna de moi. Je la conjurai de s'arrêter, mais en vain. Je vis de loin Madame de Vernon, qui venait rapidement vers nous avec Madame de Lébancé. Je fis un dernier effort pour obtenir un mot. Il fut inutile, et mon cœur irrité reprit l'indignation que le regard de Delphine avait comme suspendue. Je voulus paraître calme en présence des étrangers et ne pas rendre Delphine témoin de mon abattement. Je parlais vite, je rassemblai au hasard tout ce que je pouvais dire à Madame de Lébancé et à Madame de Vernon, et quand je crus en avoir assez fait pour avoir l'air d'être tranquille, je regardai Delphine. D'abord avec assurance. Elle n'avait point essayé, comme moi, de cacher son émotion. Elle s'appuyait sur la fille de Madame d'Hervin, marchait avec peine, ne répondait à rien, et cherchait seulement avec ses regards la route qui conduisait hors du parc. Dès que je vis sa tristesse, je me tus, et je la suivis en silence. Madame de Vernon et Madame de Lébancé tâchaient en vain de soutenir la conversation. Au moment où nous approchâmes de la porte, les yeux de Madame d'Albémare tombèrent sur moi. Si je n'avais vu que ce regard, il me semble que ma situation ne serait point amère. Mais elle a refusé de se justifier. Insensée que je suis, que pouvait-elle me dire? Désavouera-t-elle son choix? Ne m'a-t-elle pas trompée? Peut-elle anéantir le passé? Mais pourquoi donc voulais-je la voir, et pourquoi ne puis-je jamais oublier cette expression de douleur qui s'est peinte dans tous ses traits? Est-ce encore un art perfide? Mais de l'art avec ce visage, avec cet accent? Feignait-elle aussi l'état où je l'ai vue lorsqu'elle ne pouvait m'apercevoir? Sa voiture, en s'en allant, passait devant une des allées du parc. J'ai fait quelques pas derrière les arbres pour la suivre encore des yeux. La fille de Madame d'Hervin avait jeté ses bras autour d'elle, et Delphine la tenait serrée contre son cœur, avec un abandon si tendre, une expression si touchante. Il m'a semblé que sa poitrine se soulevait par des sanglots. Une femme dissimulée pourrait-elle presser ainsi un enfant contre son sein? Cet âge si vrai, si pur, serait-il associé déjà par elle aux artifices de la fausseté? Non, elle a été émue en me revoyant. Non, ce sentiment n'était point un mensonge. mais elle est liée à M. de Serbellane. Elle n'aurait pu me le nier. Je devais m'y attendre. Je ne la chercherai plus. Avant de l'avoir rencontrée, j'espérais toujours que, si je la revoyais, cet instant changerait mon sort. Je l'ai revue et c'en est fait. Je n'en suis que plus malheureux. Que venais-je faire chez Madame de Lébancé? Pourquoi Madame d'Albémar y était-elle? C'est une maison qui me déplaît sous tous les rapports. Monsieur de Lébancé était absent. Je ne le regrettais point. Monsieur de Lébancé n'a-t-il pas entraîné la femme qu'il aimait dans une démarche qui l'expose au blâme universel? Je suis sûre qu'elle n'est point heureuse, quoiqu'elle ait eu soin de répéter plusieurs fois qu'elle l'était. Son inquiétude secrète, son calme apparent, ce mélange de timidité et de fierté qui rend ses manières incertaines, tout en elle est une preuve indubitable qu'on ne peut braver l'opinion sans en souffrir cruellement. Mais moi qui la respecte, mais moi qui n'ai rien fait que l'on puisse me reprocher, en suis-je plus heureux? Mon ami, il n'est pas d'homme sur la terre aussi misérable. Pourquoi, tout en m'écrivant avec intérêt, avec affection, ne me dites-vous rien sur le sujet de mes peines? Craignez-vous de me montrer que vous aimez encore Madame d'Albémar? J'y consens. Je suis peut-être même assez faible pour le désirer. Mais de grâce, parlez-moi d'elle, et ne m'abandonnez pas seule au tourment de mes pensées. Lettre 12. Mademoiselle d'Albémar à Delphine. Montpellier, 23 août. Pour la première fois, ma chère amie, je désapprouve entièrement les sentiments que vous m'exprimez. Quoi ? Léonce, en se refusant à vous voir, écrit formellement qu'il a cessé de vous estimer. Et, dans le moment où cette conduite révoltante ne devrait vous inspirer que de l'indignation, votre lettre à moi. Cette lettre, ainsi que quelques autres dont il est parlé, ne se trouve pas dans le recueil, n'est remplie que du regret de ne lui avoir pas parlé, de n'avoir pas essayé de vous justifier à ses yeux. On dirait que vous devenez plus faible quand il se montre plus injuste. Vainement, vous vous faites illusion, en m'assurant que ce n'est point l'amour mais la fierté, mais le sentiment de votre dignité blessée qui ne vous permet pas de supporter qu'il se croie le désert de vous offenser en parlant, en pensant mal de vous. Voulez-vous savoir la vérité? La lettre de Léonce vous cause une douleur plus vive que toutes celles que vous aviez ressenties, et vous n'avez plus la force de vous y résigner. Ce n'est pas tout encore. En revoyant ce redoutable Léonce, votre sentiment pour lui s'est ranimé. Et peut-être, pardonnez-moi de vous le dire, il le faut pour vous éclairer sur vous-même, peut-être avez-vous aperçu qu'il avait éprouvé près de vous une émotion profonde et qu'un plus long entretien le ramènerait à vos pieds. Pardon encore une fois, votre cœur ne s'est pas rendu compte de ces impressions, mais pensez à l'irréparable malheur d'exciter dans le cœur de Léonce une passion qui lui inspirerait sans doute de l'éloignement pour Mathilde. Delphine, souvenez-vous que, dans vos conversations avec mon frère, vous répétiez souvent que la vertu dont toutes les autres dérivaient, c'était la bonté, et que l'être qui n'avait jamais fait de mal à personne était exempt de faute au tribunal de sa conscience. Je le crois, comme vous, la véritable révélation de la morale naturelle est dans la sympathie que la douleur des autres fait éprouver. Et vous braveriez ce sentiment, vous, Delphine. Je ne raisonnerai point avec vous sur vos devoirs, mais je vous dirai, songez à Mathilde. Elle a 18 ans, elle a confié son bonheur et sa vie à Léonce. Abuserez-vous des charmes que la nature vous a donnés pour lui ravir le cœur que Dieu et la société lui ont accordé pour son appui? vous ne le voulez pas. Mais que d'écueil dans votre situation, si vous n'avez pas le courage de quitter Paris et de revenir auprès de moi. Je songe aussi avec inquiétude que cette madame de Vernon, dont la conduite est si compliquée, quoique sa conversation soit si simple, est la seule personne qui ait du crédit sur vous à Paris. Pourquoi ne répondez-vous pas à l'empressement que madame d'Artena a pour vous, depuis que vous avez rendu service à sa nièce, madame de R. Elle m'a écrit plusieurs fois qu'elle désirerait se lier plus intimement avec vous. Je sais que quand elle vint nous voir à Montpellier, à son retour de Barège, vous ne me permettiez pas de la comparer à madame de Vernon. Elle est certainement moins aimable. Elle n'a pas, surtout, cette apparence de sensibilité, cette douceur dans les discours, cet air de rêverie dans le silence qui vous plaisent dans madame de Vernon. Mais son caractère a bien plus de vérité. Elle a une parfaite connaissance du monde. Je conviens qu'elle y attache trop de prix et que si elle n'avait pas vraiment beaucoup d'esprit, l'importance qu'elle met à tout ce qu'on dit à Paris pourrait passer pour du commérage. Néanmoins, personne ne donne de meilleurs conseils, et soit vertu, soit raison, elle est toujours pour le parti le plus honnête. Ne vous refusez pas à l'écouter. Vous ne lui parlerez pas, je le comprends, des sentiments qu'on ne peut confier qu'à des âmes restées jeunes. Mais elle vous donnera des avis utiles, tandis que madame de Vernon, qui ne cherche qu'à vous plaire, ne songe point à vous servir. Je vous en conjure aussi, ma chère Delphine, continuez à ne rien me cacher de tout ce qui se passe dans votre cœur et dans votre vie. Vous avez besoin d'être soutenue dans la noble résolution de partir. Croyez-moi, dans cette occasion, si la passion ne vous troublait pas, quel être sur la terre serait assez présomptueux pour comparer sa raison à la vôtre. Mais vous aimez Léon, et je n'aime que vous. Confiez-vous donc sans réserve à ma tendresse, et laissez-vous guider par elle. Lettre 13. Madame d'Artena à madame de R. Paris, ce 1er septembre 1790. Revenez donc à Paris, ma chère nièce. Vous avez pris cette année trop de goût pour la solitude. Depuis cette malheureuse scène des Tuileries, vous êtes triste. Je voulais bien que vous sentissiez un peu la nécessité d'en croire mes conseils. Mais je serais bien fâchée que votre caractère perdît sa gaieté naturelle. J'ai enfin rencontré chez elle madame d'Albémare, que vous m'aviez chargée de voir, et que je rechercherais volontiers pour moi-même, tant je la trouve aimable et bonne. J'aurais désiré qu'elle me parlât avec confiance sur sa situation actuelle. Mais madame de Vernon possède seule toute son amitié, et je doute fort cependant qu'elle en fasse un bon usage. J'ai trouvé madame d'Albémare triste et surtout fort agitée. Elle avait l'air d'une personne tourmentée par une indécision cruelle. Il était 9 heures du soir, elle était encore vêtue de sa robe du matin. Ses beaux cheveux n'avaient point encore été rattachés. À l'extérieur négligé de sa personne, à sa démarche lente, à sa tête baissée, l'on aurait dit que depuis longtemps, elle n'avait rien fait que songer à la même pensée et souffrir de la même douleur. Dans cet état, cependant, elle était jolie comme le jour et je ne pus m'empêcher de le lui dire. « Moi, jolie, me répondit-elle, je ne dois plus l'être. » Et elle se tut. Je voulais apprendre d'elle quelles sont à présent ses relations avec M. de Serbellane. On rapporte à ce sujet des choses très diverses dans Paris. Les uns disent qu'elle ne part pour le Languedoc que pour aller de là rejoindre M. de Serbellane, s'il n'obtient pas, à cause de son duel, la permission de revenir en France. D'autres murmurent tout bas que Mme d'Albémare a été fort coquette pour M. de Mondeville et que M. de Serbellane, irrité, s'est brouillé tout à fait avec elle. Enfin, une lettre de Bordeaux m'avait fait naître une idée très différente de toutes celles-là, et je l'avais gardée jusqu'à présent pour moi seule. Je pensais qu'il se pourrait bien que M. de Serbellane fût l'amant de Mme d'Hervin, et que Mme d'Albémare, les ayant réunis tous les deux chez elle un peu indiscrètement, M. d'Hervin les y eut surpris et se fût battu avec M. de Serbellane pour se venger de l'infidélité de sa femme. J'essayais de provoquer la confiance de Mme d'Albémare en lui disant ce qui était vrai. C'est que je voyais avec peine que les différents bruits qui se répandaient dans Paris sur son compte pouvaient nuire à sa réputation. Elle me répondit avec un découragement qui me toucha beaucoup. Il fut une époque de ma vie dans laquelle j'aurais attaché de l'importance à ce qu'on pouvait dire de moi. Mais à présent que mon nom ne doit plus être nié à celui de personne, je ne m'inquiète plus de l'injustice dont ce nom peut être l'objet. Ces paroles me persuadèrent qu'elle était en effet brouillée avec M. de Serbellane, et comme je commençais à lui donner des consolations douces sur la peine qu'elle devait en éprouver, elle m'arrêta pour me demander de m'expliquer mieux. Et lorsque je l'eus fait, elle eut l'air étonnée. Mais, sans y mettre un intérêt très vif, elle me déclara qu'elle n'avait jamais pensé à épouser M. de Serbellane. Le soupçon que j'avais formé sur Mme d'Hervin me revint à l'instant et je le dis à Delphine, en lui avouant que je regardais dans ce cas Mme d'Hervin comme la véritable cause de la mort de son mari. Delphine ne m'eut pas plutôt comprise que, se relevant de l'abattement où je l'avais vue jusqu'alors, elle me protesta que je me trompais. Je persistais dans mon opinion et je lui dis positivement qu'un duel aussi sanglant ne pouvait avoir été provoqué par de simples discussions politiques, et que l'amour de M. de Serbellane pour elle ou pour Mme d'Hervin en devait être la cause. Quand Mme d'Albémare vit que cette opinion était arrêtée dans ma tête, elle finit par me laisser croire tout ce que je voulus sur son attachement pour M. de Serbellane, exigeant seulement que je n'accusasse pas Mme d'Hervin. Que vous dirais-je, ma chère nièce? Il me fut impossible de démêler la vérité. Ce n'est pas qu'assurément Mme d'Albémare ne soit la femme la plus vraie que j'ai jamais connue. Mais il y a dans son caractère une générosité si singulière que je ne suis pas parvenue à découvrir avec certitude si tout le mystère ne vient pas de la crainte qu'elle a de compromettre Mme d'Hervin. Aime-t-elle réellement M. de Serbellane? Sa tristesse vient-elle de leur séparation et peut-être de leur brouillerie? Ou bien a-t-elle consenti à tout ce qu'on pourrait dire d'elle et de lui pour détourner l'attention qui se serait portée sur Mme d'Hervin et la sauver de l'indignation qu'elle aurait excitée dans le public et dans la famille de son mari? Je l'ignore, mais j'exige de vous le plus profond secret sur cette dernière supposition. Vous en sentez les conséquences. Quoi qu'il en soit, Mme d'Albémare a rendu ma pénétration tout à fait inutile. Je me vante de deviner les caractères dissimulés. Mais quand une âme franche ne veut pas laisser connaître un secret, sa réserve simple et naturelle déconcerte les efforts de l'esprit observateur. Après quelques moments de silence, je n'insistai plus, et me bornant à tâcher d'éclairer Delphine sur Mme de Vernon, je lui dis « Quels que soient vos motifs pour ne pas donner à ceux qui s'intéressent à vous le moyen de répondre clairement aux malveillants qui vous supposent des torts, de bons amis en imposent toujours, quand ils le veulent, au discours médisant de la Société de Paris. Pourquoi donc Madame de Vernon, qui se dit votre amie, ne fait-elle pas taire la phalange des sots? Ils attaquent, il est vrai, de préférence les personnes distinguées, mais ils ne s'y hasardent cependant que dans les moments où ils ne les croient pas courageusement défendues par leurs parents ou leurs amis. Je dois croire, me répondit Delphine, en retombant dans cet état de tristesse insouciante dont elle était un moment sortie, je dois croire que Madame de Vernon est mon amie. Je n'ai pas entendu dire, répondis-je, qu'elle se permit aucun genre de blâme sur vous, ma chère Delphine. Mais cependant, je n'ai pas une confiance entière dans son amitié. Ceux qui l'entourent se montrent souvent mal pour vous. Rarement on peut se tromper à cet indice. On inspire à ses amis ce que l'on éprouve sincèrement. Et dans son cercle, du moins, une femme sait faire aimer ce qu'elle aime. Elle vous loue beaucoup, j'en conviens. Mais à haute voix, comme s'il lui importait surtout qu'on vous le répétât. Et je ne vois pas dans sa conversation, quand il s'agit de vous, ce talent conciliateur qu'elle porte sur tous les autres sujets. Elle dit souvent que vous êtes la plus jolie, la plus spirituelle. Mais c'est à des femmes qu'elle s'adresse pour vous donner cet éloge qui peut les humilier. Et je ne l'entends jamais leur parler de cette bonté, de cette douceur, de cette sensibilité touchante qui pourrait vous faire pardonner tous vos charmes par celles même qui en sont jalouses. Enfin, souffrez que je vous le dise, on pourrait croire, en entendant Madame de Vernon parler de vous, qu'elle s'acquitte par ses discours plutôt qu'elle ne jouit par ses sentiments, et que, prévoyant d'une manière confuse que votre amitié finira peut-être un jour, elle ne veut pas à tout hasard vous donner des armes contre elle, en contribuant elle-même à consolider votre réputation. Si vous avez raison, me répondit Delphine, je n'en suis que plus à plaindre. Je l'aime, je l'ai aimée, Madame de Vernon, de l'attrait du monde le plus vif et le plus tendre. Si tant de dévouement, tant d'affection, n'ont point obtenu son amitié, il est donc vrai qu'il n'est rien en moi qui puisse attacher à mon sort. Il est donc vrai que je ne puis être aimée. Vous vous trompez, ma chère Delphine, repris-je alors vivement. Vous méritez d'avoir des amis plus que personne au monde. Mais vous ne savez pas encore ce que c'est que la vie. Vous vous croyez deux excellents guides, l'esprit et la bonté. Eh bien, ma chère, ce n'est pas assez d'être aimable et excellente pour se démêler heureusement des difficultés du monde. Il y a d'utiles défauts, tels que la froideur, la défiance, qui vaudraient beaucoup mieux pour Égide que vos qualités mêmes. Tout au moins, faut-il diriger ces qualités avec une grande force des raisons. Moi, qui ne suis pas née très sensible, j'ai deviné le monde assez vite. Laissez-moi vous l'apprendre. Madame de Vernon vous paraît plus digne de votre amitié, elle sait mieux vous tenir le langage qui vous séduit. Moi, je reste toujours ce que je suis. Je n'ai pas assez d'imagination pour feindre, je le voudrais en vain. Je ne suis plus jeune, mon esprit n'est plus flexible, il ne peut aller que dans sa ligne. Mais je sais que mes avertissements vous sont nécessaires, et c'est cette conviction qui me fait solliciter votre confiance. On vous l'aura dit, je crois, d'ordinaire je ne me mets pas en avant. Je suis sur la défensive avec la société, et c'est ainsi qu'il faut être. Je m'offre à vous cependant, ma chère Delphine, parce que vous avez un caractère qui donne tout et n'abuse de rien. Servez-vous donc de moi, si je puis vous être utile. Ce sera ce que je pourrai faire de mieux de mon oisive existence. Madame d'Albemarle parut fort touchée des preuves d'amitié que je lui donnais, et je croyais même l'avoir un peu ébranlée dans son aveugle amitié pour Madame de Vernon. Mais le surlendemain, elle est revenue chez moi, presque uniquement pour me dire qu'elle avait revu depuis moi Madame de Vernon et s'était assurée qu'elle n'avait aucun tort. « Elle n'aurait pu me défendre, continua Madame d'Albémare, sans compromettre mes amis. Elle a bien fait de se conduire avec prudence et de ne pas se livrer à son sentiment. Je vous le répète, ma chère nièce, on ne peut arracher Madame d'Albémare à l'empire de Madame de Vernon. Je l'ai souvent remarqué en vivant dans leur société. Madame de Vernon met beaucoup d'intérêt à captiver Delphine. Elle est avec elle fière, sensible, délicate. Elle rend hommage au caractère de son amie en imitant toutes les vertus pour lui plaire. Moi, je ne puis ni ne veux me montrer autrement que la nature ne m'a faite, bonne et raisonnable, mais point du tout exaltée. Je vaux mieux réellement que Madame de Vernon. Delphine a tort de ne pas s'en apercevoir. J'obtiendrai cependant un jour l'amitié de Madame d'Albémare si quelques circonstances me mettent dans le cas de la servir. Je vous promets que je veillerai sur elle comme sur ma fille. Vous aussi, ma chère nièce, vous allez devenir l'objet de tous mes soins, si vous continuez à m'écouter et à me croire. H. d'Arthenas. Lettre 14. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Paris, ce 3 septembre. Non, vous l'exigez en vain. Non, je n'ai pas la force de souffrir une telle incertitude. Qu'il me dise ce qu'il éprouve, que je connaisse la cause de l'état extraordinaire où je le vois, et je me soumets à mon sort. Mais le doute, cette douleur qui prend toutes les formes pour vous poursuivre, sans que vous ayez jamais aucune arme pour l'atteindre, je ne puis me résoudre à la supporter. Les malheureux condamnés au supplice savent au moins pour quel crime ils sont punis, et moi je l'ignore. Ce que je croyais ne me paraît plus vraisemblable. Écoutez ce qui s'est passé hier, et si vous le pouvez, continuez à me commander de partir sans le voir. On jouait hier Tancrède. Madame de Vernon me proposa d'y aller. J'y consentis, parce que, de toutes les tragédies, c'est celle qui m'a fait verser le plus de larmes. Nous nous plaçâmes dans la loge de Madame de Vernon, qui est en bas sur l'orchestre. Pendant le premier acte, je remarquai à quelque distance de nous un homme enveloppé d'un manteau, la tête appuyée sur le banc de devant, couvrant son visage avec ses mains et mettant du soin à se cacher. Malgré tous ses efforts, je reconnus Léonce. Il y a tant de noblesse dans sa taille que rien ne peut la déguiser. Mes yeux étaient fixés sur lui. Je n'entendais presque rien de la pièce, mais je le regardais. Il tressaillit en écoutant la scène où Tancrède apprend l'infidélité d'Aménaïde. Son émotion depuis cet instant semblait s'accroître toujours. Il cherchait à la dérober à tous les regards, mais je ne pouvais m'y méprendre. Ah, que j'aurais voulu m'approcher de lui! Combien j'étais touchée de ses larmes! C'était les premières que je voyais répandre à cet homme d'un caractère si ferme et si soutenu. Était-ce pour moi qu'il pleurait? Serait-il possible que son âme fût ainsi bouleversée si Mathilde suffisait à son bonheur? Ne donnait-il point de regrets à celle qui entend mieux les sentiments d'Aménaïde, qui est plus digne d'admirer avec lui le langage que le génie prête à l'amour. Enfin, au quatrième acte, il me parut qu'il n'avait plus le pouvoir de se contraindre. Je vis son visage baigné de pleurs, et je remarquai dans toute sa personne un air de souffrance qui m'effraya. Je crois même que dans mon trouble, je fis un mouvement qu'il aperçut, car à l'instant même il se baissa de nouveau pour se dérober à mes regards. Mais lorsque Tancrède, après avoir combattu et triomphé pour Aménaïde, revient avec la résolution de mourir, lorsqu'un souvenir mélancolique dernier regret vers l'amour et la vie lui inspire ces vers, les plus touchants qu'il y ait au monde. Quel charme dans son crime à mes esprits rappelle l'image des vertus que je creux voir en elle. Toi qui me fais descendre avec tant de tourments, dans l'horreur du tombeau dont je t'ai délivré, odieuse, coupable, et peut-être adorée. Toi qui fais mon destin jusqu'au dernier moment, ah, s'il était possible, ah, si tu pouvais être ce que mes yeux trompés t'ont vu toujours paraître. Non, ce n'est qu'en mourant que je peux l'oublier. Un soupir, un cri même, étouffé, sortit du cœur de Léonce. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Il se leva avec précipitation et se hâta de s'en aller. Mais il chancelait en marchant et s'arrêta quelques instants pour s'appuyer. Son visage me parut d'une pâleur mortelle et, comme on refermait la porte sur lui, je crus le voir manquer de force et tomber. Dieu, comment ne l'ai-je pas suivi? La présence de Madame de Vernon qui me regardait attentivement et la curiosité des spectateurs que j'aurais attirés sur moi me retinrent. Mais jamais un sentiment plus passionné ne m'avait entraîné vers Léonce. Il me suffisait de le retrouver sensible. J'oubliais qu'il n'était plus pour moi et qu'il avait pris volontairement des liens qui nous séparaient pour toujours. Je me hâtai de revenir chez moi et, quand je fus seule, une réflexion me saisit fortement. Je crus voir quelque rapport entre les vers qui avaient touché Léonce et les sentiments qu'il pouvait éprouver s'il m'aimait encore et me croyait coupable. Néanmoins, quelque exagéré que soit Léonce sur les vertus qu'impose le monde, ne pourrait-il donner le nom de crime à la conduite que j'ai tenue? Non, m'écriai-je seul avec transport. On m'a calomnié près de lui. Je ne puis deviner de quelle manière, mais il faut qu'il m'entende, il le faut, à tout prix. Louise, il n'est aucun devoir sur la terre qui pût me faire consentir à lui laisser une opinion injuste de moi. Que je meure, mais qu'il me regrette. N'exigez pas que je vive avec son mépris. Cependant, en me rappelant la lettre qu'il a répondue, la seule pensée de lui écrire, de le chercher, me fait mourir de honte. Quoi qu'il arrive, je ne confierai point à Madame de Vernon les pensées qui m'agitent. Je ne sais ce qu'elle a cru de voir, ou me dire, ou me taire, mais la voix seule de Léonce peut me persuader maintenant. C'est de lui seul que j'apprendrai s'il me hait ou s'il m'aime, s'il est injuste ou malheureux. C'est à lui. Et quoi? Bravant tout ce qui devrait me retenir, j'irai implorer une explication de ce caractère si soupçonneux, si rigide et si fier. Quelle perplexité cruelle! Comment jamais en sortir? Ne me dites pas que tout est fini, qu'il est marié, que je dois renoncer à son opinion comme à son amour. Son estime est encore mon seul bien sur la terre. Il a besoin du suffrage de tous. Je ne veux que le sien, mais il faut que je l'emporte dans ma retraite. Si je ne l'obtenais pas, vous me verriez poursuivi par une agitation que rien ne pourrait calmer. Je n'aurais pas le repos que peut donner le malheur même quand il n'y a plus rien à faire ni rien à vouloir. Je ne me résignerai jamais. Et en expirant, ma dernière parole serait encore pour me justifier auprès de lui. Lettre 15. Léonce à M. Barton. Ce 4 septembre 1790. Je vous envoie un courrier qui a ordre de revenir dans 24 heures avec une lettre de vous. Vous ne répondez pas depuis 8 jours aux lettres que je vous ai écrites sur ce qui s'était passé entre Madame d'Albémar et moi. Quel est le motif de votre silence? Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit? Me trouvez-vous injuste envers Delphine? Et si vous le croyez, juste ciel, pensez-vous que ce serait me faire du mal que de me le dire? Lettre 16. Réponse de Monsieur Barton à Léonce. Mondeville, 6 septembre. Vous avez eu tort d'attacher tant d'importance à un silence de quelques jours. Je souffre toujours de mon bras et j'ai de la peine à écrire jusqu'à ce que je sois guéri. Vous êtes l'époux de Mademoiselle de Vernon. C'est une personne très vertueuse, uniquement attachée à vous. Il me semble que vous ne devez plus vous occuper des circonstances qui ont précédé votre mariage. Je ne puis les approfondir de loin. Ce que vous m'en avez dit ne suffit pas pour juger une femme à qui j'ai voué de l'estime et de l'attachement. Mais ce dont je me crois sûr, c'est qu'elle-même, à présent, désire que vous soyez occupé de votre bonheur et de celui de Mathilde, et que vous oubliez entièrement l'affection que vous avez pu concevoir l'un pour l'autre quand vous étiez libre. Je vous en conjure, mon cher élève, calmez-vous sur toutes ces idées. Le temps en est passé. Votre sort est fixé comme votre devoir. Rappelez-vous ce que vous avez toujours pensé des liens que vous venez de contracter. Et songez qu'il faut se soumettre, quand la passion nous aveugle, au jugement qu'on a prononcé dans le calme de sa raison. Je suis désolée d'être hors d'état d'aller en voiture. Je pourrais espérer que nos entretiens vous feraient du bien. Adieu. Lettre 17. Madame de R. à Madame d'Arthena. Ce 14 septembre. Je suis arrivée il y a 2 jours pour vous voir, mon aimable tante, et l'on m'a dit chez vous que vous étiez à la campagne. Vous auriez dû m'en prévenir. Je ne reviens à Paris que pour vous. Quand nous serons bien seuls une fois, je vous expliquerai mon goût pour la retraite. Vous m'encouragerez à vous en parler, car ce sujet m'est pénible. J'ai commencé par m'informer de Madame d'Albémare. Je ne veux point aller chez elle. Hélas, je sais trop que sa liaison avec moi ne pourrait que lui nuire. Mais je n'ai pas dans le cœur un sentiment plus vif que mon intérêt pour son sort. Madame de Vernon me fit inviter hier à une grande assemblée qu'elle donnait, et j'y allais dans l'espérance de rencontrer Madame d'Albémare qui n'y fut point. En traversant les appartements de Madame de Vernon, je me rappelais la dernière fois que j'y vins. Le jour de ce grand bal, où Delphine eut tant de succès et montra si visiblement son intérêt pour M. de Mondeville. Je réfléchissais aux événements inattendus qui avaient suivi ce jour, lorsque M. de Mondeville entra dans le salon avec sa femme. Je vous ai dit, je crois, ma tante, que la première fois que j'avais vu Léonce, je fus si frappée du charme et de la noblesse de sa figure, que tout à coup, l'impression que j'en reçus me fit réfléchir avec amertume sur les torts de ma vie. Je sentis que je n'étais pas digne d'intéresser un tel homme, et Madame d'Albémare me parut la seule femme qui méritât de lui plaire. Eh bien, hier, l'expression du visage de Léonce était entièrement changée. La beauté de ses traits restait toujours la même, mais son regard sombre et distrait ne s'arrêtait plus sur aucune femme. Il se hâta de saluer et s'assit dans un coin de la chambre où il n'y avait personne à qui parler. Sa femme s'approcha de lui. Je ne sais ce qu'elle lui demandait. Il lui répondit d'un air doux. Mais dès qu'elle l'eut quitté, il soupira comme s'il venait de se contraindre. Une fois, Madame de Vernon voulut conduire son gendre auprès d'une dame étrangère qui ne le connaissait pas. Je crus voir dans les manières de Léonce une répugnance secrète à se laisser ainsi présenter comme un nouvel époux. Il restait en arrière, suivait avec peine et se prêtait gauchement à tout ce qui pouvait ressembler à des félicitations. Madame du Marsay, placée à côté de moi, vit que j'observais attentivement Monsieur et Madame de Mondeville et me dit tout bas en souriant, J'ai été leur rendre visite 2 ou 3 fois et les ai vus souvent chez madame de Vernon. Il n'y a rien de si singulier que la conduite de Léonce. Il semble qu'il veuille être, comme le disait le duc de B, le moins marié qu'il est possible. Il évite, avec un soin extraordinaire, les sociétés, les occupations communes avec sa femme. Mathilde, charmée de sa douleur, de sa politesse, de la liberté qu'il lui laisse, ne remarque pas l'indifférence qu'il a pour elle et la crainte qu'il éprouve de resserrer ses liens en se servant du pouvoir qu'il lui donne. Mathilde a de l'amour pour son mari et se persuade fermement qu'il en a pour elle. Ses dévotes ont en toute chose une merveilleuse faculté de croire. On dirait que Léon s'attend toujours quelque événement extraordinaire et qu'il n'est dans sa maison qu'en passant. Il n'arrange rien chez lui, n'a pas seulement encore fait ouvrir la caisse de ses livres. Aucun de ses meubles n'est à sa place. Ce sont de petites observations, mais qui n'en prouvent pas moins l'état de son âme. Tout ce qui lui rappelle sa situation lui fait mal, et quoiqu'il ne puisse la changer, il s'épargne autant qu'il peut les circonstances journalières qui lui retracent la grande douleur de sa vie, son mariage. Enfin, je vous garantis qu'il est très malheureux. J'allais répondre à madame du Marsay et l'interroger encore, mais notre conversation fut interrompue. Comme il y avait beaucoup de jeunes personnes dans la chambre, on proposa de danser. Une femme se mit au clavecin, une autre prit la harpe. Moi, je regardais Léonce. Il cherchait les moyens de sortir de la chambre. Mais un homme âgé qui lui parlait le retenait impitoyablement. Je compris que la danse devait lui rappeler des souvenirs pénibles, et j'espérais qu'on ne lui proposerait pas de s'en mêler. Lorsque madame du Marsay, prenant la main de Mathilde et la mettant dans celle de Léonce, leur dit « Allons, les jeunes mariés, dansez ensemble !»« Bravo !» se mit-on à crier de toutes parts. « Oui, qu'ils dansent ensemble !» La musique commence à l'instant, et tout le monde s'écarte pour laisser Mathilde et Léonce seuls au milieu de la chambre. Tout cela s'était fait si rapidement que Léonce, toujours absorbé, ne sut pas d'abord ce qu'on voulait de lui. Mais quand il entendit la musique, qu'il vit le cercle formé, et près de lui Mathilde, qui se préparait à danser, saisi à l'instant comme par un sentiment d'effroi, frappé sans doute du souvenir de Delphine que tout lui retraçait, il rejeta la main de Mathilde avec violence, recula de quelques pas devant elle, puis, se retournant tout à coup, il sortit en un clin d'œil de la chambre et s'élança dans le jardin. Le cercle qui l'entourait s'ouvrit subitement pour le laisser passer. La vivacité de son action faisait tant d'impression sur tout le monde que personne n'eut l'idée de prononcer un mot pour l'arrêter. Madame de Vernon, remarquant l'étonnement de la société, se hâta de dire que M. de Mondeville ne pouvait supporter d'être l'objet de l'attention générale et qu'il était très timide, malgré les bonnes raisons qu'on pouvait lui trouver de ne pas l'être. Chacun eut l'air de le croire, et, chose étonnante, Mathilde, qui aime certainement son mari, fut la première à se tranquilliser complètement et se mit à danser à la même place où Léonce l'avait quittée. Je sortis pour prendre l'air. À l'extrémité du jardin de madame de Vernon, je trouvai Léonce assis sur un banc et profondément rêveur. Il me vit pourtant au moment où je me détournais pour ne pas le troubler. Et lui, qui jusqu'alors ne m'avait jamais adressé la parole, vint à moi et me dit « Madame de R, la dernière fois que je vous ai vue, vous étiez avec madame d'Albemarle, vous en souvenez-vous ?»« Oui, sûrement, lui répondis-je, je ne l'oublierai jamais. »« Eh bien, dit-il alors, asseyez-vous sur ce banc avec moi, cela vous fera-t-il de la peine de quitter le bal ?» « Non, je vous assure, lui répétai-je plusieurs fois. Mais lorsque nous fûmes assis, il garda le silence et n'eut plus l'air de se souvenir que c'était lui qui voulait me parler. J'éprouvais un embarras qui ne me convient plus, et je me hâtai d'en sortir par mes anciennes manières étourdies et coquettes. Car c'est une coquetterie que de parler à un homme de ses sentiments, même pour une autre femme. Que vous est-il donc arrivé, lui dis-je, en mon absence? Je croyais avoir remarqué que Madame d'Albémare vous aimait, que vous aimiez Madame d'Albémare. Je vais passer un mois à la campagne, je reviens, tout est changé. Une aventure cruelle fut un bruit épouvantable. Madame d'Albémare, dit-on, doit épouser Monsieur de Serbellane. Je vous retrouve l'époux de Mathilde, et cependant vous êtes triste. Madame d'Albémare ne part point et ne voit plus personne. Qu'est-ce que cela signifie? Léonce reprit l'air de réserve qu'il avait un moment perdu et me dit assez froidement « Madame d'Albémare sera sans doute très heureuse dans le choix qu'elle a fait de Monsieur de Serbellane. » On ne m'ôtera pas de l'esprit, repartis-je, qu'elle vous préfère à tout. Mais il est inutile de vous en parler à présent que vous êtes mariée. Ainsi donc, adieu. Je me levai pour m'en aller. Léonce me retint par ma robe et me dit « Vous êtes bonne, quoiqu'un peu légère. Vous n'avez pas voulu me faire de la peine. Expliquez-vous davantage. » « Je ne sais rien, repris, je vous assure. Je me souviens seulement d'avoir vu Madame d'Albémare traverser ici la salle du bal, un soir où vous étiez prêt à vous trouver mal après avoir dansé avec elle. L'émotion qui la trahissait ce jour-là ne peut appartenir qu'à un sentiment vrai, pur, abandonné, tel qu'on éprouve, ajoutai-je en soupirant, quand d'illusion en illusion on n'a pas flétri son cœur. Il se peut qu'elle ait eu des engagements antérieurs avec M. de Serbellane, mais je suis convaincue qu'elle ne l'épousera pas parce qu'elle vous aime et qu'elle a rompu ses liens avec lui à cause de vous. » Léonce parut frappé de ce que je venais de lui dire. Madame de Vernon étant venue nous rejoindre, je rentrai dans le salon et ne parlai plus à M. de Mondeville de la soirée qu'un moment lorsque je m'en allais et qu'il venait d'avoir un assez long entretien seul avec sa belle-mère. « N'écoutez pas trop, Madame de Vernon, lui dis-je tout bas. Je me méfie beaucoup, même de son amitié pour Madame d'Albémare. Elle est bien fine, Madame de Vernon. Elle n'est point dévote, elle n'a guère de principe sur rien, elle a beaucoup d'esprit, elle n'a point aimé son mari, et cependant elle n'a jamais eu d'amant. Défiez-vous de ces caractères-là. Il faut que leur activité s'exerce de quelque manière. » Croyez-moi, les pauvres femmes qui, comme moi, se sont fait beaucoup de mal à elles-mêmes, ont été bien moins occupées d'en faire aux autres. « Hélas, me répondit Léonce en me donnant la main pour me reconduire jusqu'à ma voiture, il y a peut-être une vie dont le sort a été décidé par ce que vous dites si gaiement. Madame de Mondeville sortait en même temps que moi. Elle exprima son mécontentement d'une manière très visible de la politesse que me faisait Léonce. Ce n'était pas la jalousie qui l'irritait. Votre pauvre nièce ne passera jamais pour attirer l'attention de Léonce. Mais Madame de Mondeville, avant son mariage comme depuis, n'a jamais manqué d'exercer sur moi toute la rigueur de sa pruderie. Je le mérite peut-être, mais que la charmante Delphine, aussi pure que Mathilde et mille fois plus aimable, sait mieux trouver l'art de faire aimer la vertu. Adieu, ma chère tante, revenez, revenez vite. Je puis vous promettre avec certitude que désormais je contribuerai tous les jours plus à votre bonheur. Cécile de R. Thank you.